Bonjour à tous et bienvenue dans Amour. Aujourd'hui, je suis très contente de vous partager ce nouvel épisode enregistré avec Sephora. Sephora a 28 ans et nous raconte son histoire d'amour avec son mari et les répercussions que ça a eues dans sa famille. Elle parle de son éducation et de la pudeur de parler de certains sujets, de l'acceptation de son union par sa mère, mais de la déception de son père quand il a appris que le futur mari de sa fille ne serait pas musulman. Elle parle du grand manque de communication avec son père, de vouloir réparer sa relation avec lui pour finalement lâcher prise et apprendre à être heureuse malgré le dialogue rompu. Elle parle aussi bien sûr de sa rencontre avec son mari, de son bonheur immense depuis le début de leur histoire. Merci beaucoup à Sephora pour son témoignage et merci à vous d'être toujours plus nombreux à écouter les épisodes d'Amour. N'hésitez pas à me suivre sur Instagram et à mettre des petites étoiles ou des commentaires sur Apple Podcasts et Spotify. Ça fait toujours plaisir et ça aide au référencement. Comme d'hab, si vous souhaitez participer, vous pouvez m'envoyer un mail à lea.bordier@gmail.com avec Amour en objet. Toutes les infos sont en description. Je vous laisse avec notre échange. Bonne écoute.
Mais tu sais que la dernière fois, j'ai réfléchi aux petites capotes de grand-mère, ouais, là, ouais. Carrément. Je me suis dit, bon, ça y est, j'ai plus de dignité. Je préfère préserver mes cheveux.
Mais je trouve qu'il y a des meufs qui font ça, enfin, qui mettent ça et c'est archi stylé. Alors que moi, je mets ça, mais j'ai l'air ridicule.
Aucun flow, quoi.
Moi, je pense que tu serais stylée. Là, ouais. Comme ça, tu vois, ouais,
Mais maintenant, il y a des marques de hipsters, tu sais, qui sortent avec des imprimés spéciaux.
Ah ouais,
tout,
j'ai pas vu ça encore.
Ah, mais c'est les pubs Instagram, ça.
Le truc en plastique, mais tu sais, qui coûte hyper cher, quoi.
C'est 200 euros pour te dire, genre, mais c'est pas exactement comme celui des mamies, t'inquiète, c'est un truc
ouais,
pour filles parisiennes.
Made in Paris, ouais, c'est ça. Putain, les pubs Insta, le pire truc, quoi. T'as déjà acheté un truc, sponsor, là ?
Non.
Tu peux sentir les doses, hein.
J'essaie de réfléchir, je pense pas. Okay. Mais en fait, souvent, je me dis, tiens, je vais follow la marque. Ouais. Et ensuite, je vois toutes mes copines Yankee qui suivent aussi. Et je me dis, non, c'est bon, je vais pas tomber dans le panneau, moi. Du coup, non.
Bon, bref, c'est good, je t'entends bien. Okay. Si jamais je t'entends plus ou quoi, je te ferai un signe. Je te remonte ça au cas où. Ok, et bah c'est parti.
Oui.
Je suis avec Sephora aujourd'hui. Salut Sephora.
Salut.
Comment vas-tu ?
Très bien.
Merci d'être venue jusqu'à moi, d'avoir bravé la pluie et les transports parisiens, région parisienne, d'avoir fait carrément toute la ligne 2 pour arriver jusqu'ici. C'est pas rien, franchement.
Ta vie qui insiste, si on va enregistrer cet épisode.
C'est un voyage finalement. Sephora, tu m'as écrit parce que j'avais publié un petit post qui disait salut, je veux des histoires joyeuses, des histoires d'amour joyeuses, et tu m'as envoyé un petit mail assez rapidement, en fait, quelques minutes, quelques heures après la publication.
Ouais, bah justement, j'y ai repensé ce matin en me disant tiens, je lui ai écrit en me disant elle va jamais me répondre, ouais. Et elle va jamais voir mon message, donc finalement ça m'engage à rien, c'est pas très grave. Et après je me suis dit bon, elle m'a répondu, maintenant
elle allait retaquer. Maintenant ça devient sérieux, c'est ça.
Donc après j'étais dans le déni, ouais. Jusqu'à ce que je me dise bon bah c'est aujourd'hui, et ouais. Là faut y aller, quoi.
Bah ouais, ça va être trop bien. Oui. Pour commencer, Sephora, est-ce que tu peux me dire qui tu es, d'où tu viens, quel âge tu as, ce que tu fais dans la vie?
Alors, j'ai 28 ans, ouais. Je viens de Saint-Germain-en-Laye, ouais. Petite banlieue chic de Paris.
Tu m'as fait la pub en off pour Saint-Germain-en-Laye.
Ouais, ouais. Je fais la pub à tout le monde.
Le marché 4 fois par semaine.
C'est une magnifique ville royale avec une forêt, un château, tout ce dont on peut rêver finalement.
Ça fait longtemps que tu es là-bas ?
Ouais, je suis née là-bas en fait.
Ah ok, ouais, t'es vraiment là-bas, quoi.
Ouais, j'ai jamais bougé.
Ouais.
J'ai traîné mon copain qui est maintenant mon mari à Saint-Germain pour qu'on s'installe ensemble là-bas. Donc,
trop bien.
Ouais. Du coup, dans la vie, je suis consultante en intelligence économique.
Ok, donc, qu'est-ce que ça veut dire ?
C'est un truc que personne ne connaît.
Ça a l'air stylé en tout cas, dit comme ça.
Ça a l'air très
c'est
stylé
chic.
Et tout le monde pense que je fais des trucs très très stylés, ouais. Alors que c'est surtout beaucoup moi derrière mon ordinateur.
Ouais.
Alors, en fait, j'accompagne les entreprises françaises dans leur prise de décision stratégique. En gros, c'est trouver des informations pour répondre à leurs questionnements X ou Y. Ça peut être une implantation à l'étranger, ça peut être un recrutement d'un cadre dirigeant, ça peut être beaucoup de choses.
Okay.
Et moi, je me suis spécialisée dans la lutte anti-contrefaçon.
Ok.
Donc, il paraît pas du tout lié à ça, mais en fait, si.
Ouais.
Du coup, pour certaines entreprises qui ont cette problématique-là en France ou à l'étranger, on va retrouver les contrefacteurs, organiser des raids, collecter des preuves, donc les accompagner comme ça dans la sécurisation de leur marque.
Stylé.
Ouais.
Tu kiffes ?
Ouais, franchement, c'est super intéressant. C'est des missions qui sont toujours différentes sur des sujets qui peuvent être très variables. Ça peut être... je ne peux pas vraiment te citer de sujet parce que c'est un monde assez confidentiel. On n'a pas le droit de dire beaucoup de choses. Donc, c'est très enrichissant, en vrai, de à chaque fois se confronter à un nouveau sujet, à une nouvelle problématique.
Trop bien.
Tu t'ennuies jamais, quoi.
Et comment t'es arrivée là? Parce que j'imagine que c'est pas... C'était pas un plan de carrière quand t'avais 13 ans, quoi.
Absolument pas. Je voulais être... Alors, quand j'étais enfant, je voulais faire partie de la police montée.
Montée, c'est quoi, ça?
C'est la police à cheval.
Ah oui.
C'est le truc, genre, hyper précis. J'aime commander et j'adore les chevaux.
Ah, trop drôle.
C'était ça, mon plan de carrière. Donc, c'est pas du tout réalisé, du coup. Ouais. Et non, j'ai fait une classe prépa en canipocane, du coup, littéraire, plutôt. Et ensuite, je suis arrivée comme ça parce que j'ai fait un stage à l'ONU en lutte contre le narcotrafic.
Wow.
Et ouais, en fait,
impressionnant.
Toute ma vie a l'air très stylée comme ça sur le papier.
Tu sais, bah,
à l'ONU, tu fais pas grand-chose quand t'es stagiaire. T'écris des rapports, tu prends les notes pendant les réunions et tout. Après, c'est hyper stimulant d'être dans cet environnement hyper international, etc. Mais c'est plus stylé sur le papier que dans la vraie vie. Je pense que c'est un peu le Graal pour beaucoup d'étudiants en relations internationales, puisque c'est ce que j'ai fait. Finalement, c'est jamais hyper sexy une fois qu'on y est, quoi. Mais bon, bref. Et du coup, c'est ça qui m'a menée à la contrefaçon, donc à la boîte pour laquelle je travaille aujourd'hui.
Ok, trop bien. On est là pour parler d'amour aujourd'hui, Sephora. Et pour parler de ton histoire d'amour avec ton mari.
Oui,
j'ai pas beaucoup d'informations.
C'est très... Mon mari, maintenant.
Bah ouais, depuis peu, apparemment.
Ouais, on s'est mariés le 21 juillet 2023.
Ouais, donc tout récent, quoi. Ouais. Trop bien. Est-ce que tu peux me parler de cette histoire d'amour?
Ouais, bien sûr. Alors, j'avais pas du tout prévu que ce soit ça ta première question.
Est-ce que tu pensais, parce que t'as réécouté les épisodes ce matin, est-ce que tu pensais que j'allais dire c'est quoi ton rapport à l'amour?
Ouais, grave. Et tu sais, genre, j'ai stressé toute la journée à me dire, genre, comment est-ce que je vais qualifier ça de manière intelligente et spirituelle?
Eh bah, ben écoute, je te la pose pas tout de suite.
D'accord,
cette question.
Très bien.
Comme ça, on est en freestyle.
Mais du coup, c'est une bonne transition parce que j'ai rencontré mon mari au travail.
Ok, trop bien.
C'était une période de ma vie où je ne datais pas particulièrement. Enfin, en tout cas, je ne cherchais pas à me poser avec quelqu'un.
Ouais, c'était à combien de temps?
À chaque fois, je me trompe de date. Donc, s'il écoute ça, il va
une
me dire
année, quoi.
Fois, je crois que c'est 2019.
Ok.
Mais en fait, j'ai un doute entre 2019 et 2020, mais je crois que c'est 2019.
Avant Covid.
C'est ça.
Avant ça Covid. Peut être...
L'ère pré-Covid.
Oui, c'est ça.
Donc, on s'est rencontrés au bureau. Au début, on ne se connaissait pas tellement.
Donc, un collègue.
Ouais, c'était un collègue. Et en fait, moi, j'étais dans un groupe de collègues qui s'appelait la Team Café.
Ouais.
Et en fait, on prenait tous des cafés ensemble. Et il s'avère que
mon
mari ne faisait pas partie de la team café.
Putain, il faisait partie de la team thé ou il faisait,
il faisait pas de pause?
En fait, il faisait...
Je sais pas ce qu'il faisait, mais il était hyper vexé, sachant
que...
En fait, un des mecs de la team café était ami avec lui, mais il avait pas pensé à le convier.
Ah oh ouais, pas
donc,
sympa.
Bref, donc il observait jalousement notre team café de loin.
Tout d'un coup, tout le monde partait et lui, il comprenait pas.
Exactement. Jusqu'au jour où on a sympathisé lors d'un pot de départ d'une collègue, puisque à l'époque, tout le monde partait.
Okay.
Donc, on y avait beaucoup de pots de départ cet été-là. Et c'est vrai que quand on a parlé pour la première fois, c'était drôle, j'avais vraiment l'impression de déjà le connaître.
Okay.
Donc, dans la vie, je suis assez timide, j'ai du mal à aller vers les gens que je connais pas forcément. Dixit, la meuf qui raconte ça.
Jusqu'ici, tout se passe bien.
Tout va bien, oui. C'est très cohérent. Et du coup, le courant passait hyper bien. J'avais fait prépa, il avait fait prépa. On avait la même obsession pour Harry Potter. Enfin, tu vois, genre tous ces trucs comme ça où tu te dis « Ah, mais c'est pareil que moi ».
Ouais, point commun.
Donc voilà, c'était une super soirée. Et au moment de partir... je vois sur son téléphone qu'il avait une fille en fond d'écran.
Okay.
Donc là, je me dis, bon, c'est mort, il est très sympa et tout, mais il n'y aura rien de plus. Et les pots de départ s'enchaînent, on parle de plus en plus, on va à des pots de départ de gens qu'on ne connaît même pas.
Juste pour parler juste entre pour vous. Parler.
Et donc, les soirées s'enchaînent comme ça et vraiment, on devient de plus en plus proches. Et c'est vrai qu'à un moment, se pose la question de qu'est-ce qu'on fait ? Est-ce qu'on poursuit cette histoire ou est-ce qu'on s'arrête là parce qu'il est déjà en couple, etc.
Et ça, vous en parliez à ce moment-là ? Il te racontait un petit peu son histoire de couple ?
Ouais, parce que moi, je n'avais pas du tout en tête l'idée de commencer une histoire avec quelqu'un qui était en couple, et lui non plus d'ailleurs. Mmh. Et il était à un stade où je pense que c'était la fin de son histoire, pour des raisons qui leur appartiennent. Et un jour, il m'a dit « Bon, écoute, là, je me sens prêt, je vais quitter ma copine. »
Ok.
Donc toi, en tant que meuf qui a vu 3000 séries et films, tu te dis « Ouais, c'est ça, tu vas quitter ta copine, etc. » Lui part en week-end, je crois, avec sa copine, ses parents ou ses beaux-parents, je sais pas.
Ouais.
Et moi, j'étais en déplacement pour le bureau. Et il me dit, c'est bon, j'ai quitté ma copine, mettons-nous en couple. Et moi, j'étais genre, freine des cas de fer. Peut-être que tu vas te poser un petit peu et prendre le temps d'être seule, etc. Je remarque mes tics de langage, c'est horrible.
Ah ouais, je ne remarque pas du tout.
Etc. 15 fois par phrase.
Ah, t'inquiète. Pas de problème.
Et finalement, on a continué à se voir à ce rythme-là, à rester... après le bureau, à n'importe quel événement corporate qu'il pouvait y avoir cette semaine-là.
Putain, dans ta boîte, ils devaient se dire, ils sont motivés tous les deux.
Ouais,
ils sont impliqués de ouf dans la boîte.
Ça. Après, je pense que tout le monde aimait bien sortir. Et c'était l'été, donc tout le monde en profitait un peu pour se détendre, voir du monde. Et puis, c'est sympa d'avoir un groupe. Enfin, on avait tous à peu près le même âge, donc...
Est-ce qu'il était rentré dans la team café ?
Oui, après, il est rentré dans la team
café.
C'est
toi qui l'as invité dans la team café ?
Non, finalement, je crois pas. Mais ce qui est drôle, c'est que du coup, son ami de la team café a fini en couple avec une fille de mon équipe, parce qu'on n'est pas dans la même équipe au travail.
Okay.
Et aujourd'hui, ils ont acheté un appart ensemble tout. Donc, team café, très bonne team. Donc
vous voyez et à ce moment-là, il se passe des choses entre vous ou pas encore vous vous rapprochez un petit peu
On s'était embrassés et c'était ça qui avait provoqué un peu la grosse discussion au sujet de sa copine. Qu'est-ce qu'on faisait vraiment pour nous deux ? Et après, c'est vrai qu'on avait une vie de couple assez classique, mais on ne vivait pas ensemble. On se voyait, tu vois, les dates un peu classiques, le week-end, des expos, on allait au resto ensemble, etc. Mais il s'était rien passé de spécial, parce que déjà, on n'avait pas l'occasion. Et moi, je voulais peut-être y aller doucement, sachant qu'il sortait d'une relation hyper fraîchement. Mmh. Et je trouvais ça peut-être un peu bizarre qu'il veuille se remettre en couple si vite. Oui. Donc, j'essayais de faire un peu attention et de garder mes distances, quoi.
Ouais. Comment lui, il le vivait à ce moment-là ? Que toi, tu sois un petit peu en garde ?
Je pense qu'il le vivait plutôt bien, en fait. Enfin, c'est ça qui a aussi assez bien fonctionné dès le début. C'est qu'on était assez ouverts sur le fait qu'on voulait être ensemble, mais que c'était peut-être pas le bon moment, qu'effectivement, il fallait qu'il termine la relation dans laquelle il était. Et en fait, ça, je pense que ça m'a fait beaucoup de bien, le fait que tout soit clair dès le début.
Ouais.
Tu vois, même le fait de dire « je quitte ma copine ce week-end », il avait quitté sa copine ce week-end-là.
Il l'avait fait, ouais.
Et ça, j'ai trouvé ça vraiment bien, d'avoir cette communication qui était fluide dès le début. Mmh. Et ça m'a mis en confiance, en fait.
Mmh.
Même si tu peux te dire, tiens, c'est bizarre, ce mec a une copine, mais il flirte avec d'autres filles. Est-ce que je vais avoir confiance en lui pour l'avenir ? Après, l'état de son histoire à l'époque faisait que, effectivement, il était peut-être plus disponible émotionnellement pour vivre quelque chose à côté.
Mmh.
Mais c'est vrai que je n'ai pas eu l'impression que c'était de la traîtrise ou quoi que ce soit.
Mmh. Comment ça s'est passé ensuite entre vous ?
Ensuite, je me rappelle, ça c'était un peu peut-être le tournant dans notre relation. On est toujours cet été-là, donc là, on est quelques semaines après. Ouais. On avait pris un verre à côté de la Sorbonne et je lui dis, bah écoute, moi, j'ai bientôt terminé mes études, parce que je finissais mes études à ce moment-là, j'étais en alternance dans la boîte.
Ok.
J'ai prévu de partir un mois. Non, c'était pas un mois, je raconte n'importe quoi. j'ai perdu le fil, mais j'ai prévu de partir quelques semaines pour me ressourcer en mode aux Canaries avec ma valise remplie de livres et personne d'autre.
Trop bien.
Et là, il me dit tu pars quand ? Donc, je lui dis la date. Il me dit je viens.
Ah ouais ?
Je dis comment ça, tu viens ? Enfin, tu sais, genre, c'est un mec avec qui tu parles depuis quelques semaines. Bon, je pense qu'à l'époque, j'avais pas l'impression que ça allait durer hyper longtemps. Enfin, j'étais trop contente que ça dure. Mais je pense que j'étais encore un peu sur la réserve à me dire est-ce qu'il va pas me laisser tomber hyper vite et tout ?
Vigilante.
C'est ça. Et là, il me dit « tu sais quoi, je vais venir ». Donc moi, j'étais trop contente et tout. Mais j'ai fait genre « Ah ouais, pourquoi pas ?»
Ok. En lui disant ça, t'espérais un petit peu ou pas du tout ?
Ah oui,
t'as été surprise.
Moi, j'espérais trop qu'il vienne. Enfin, c'était inespéré pour moi. Ouais. Enfin, en fait, moi, j'étais vraiment à fond. Mais j'essayais de temporiser quand même.
Ouais, de façon un peu secrète, quoi.
Oui, totalement. Parce que quand j'étais rentrée de la première soirée, j'avais écrit à toutes mes copines. Ouais. Oh, j'ai rencontré ce mec, il est incroyable.
Et puis le lendemain, salut.
Et du coup, il me dit, tu sais quoi, je prends mes billets d'avion là.
Ok.
D'accord. Donc, il prend ses billets d'avion et... on part tous les deux aux Canaries pendant, je crois que c'était une semaine. Et c'était trop bien, en fait. C'est comme si tu partais avec un de tes amis que tu connais depuis hyper longtemps, sauf que, bien évidemment, c'est ton amoureux, donc c'est différent. Ça, c'était vraiment incroyable, je pense, d'avoir la chance de se découvrir dans un voyage un peu chill.
Ouais, un peu lune de miel, quoi.
C'est ça. C'est un peu ça, c'était la lune de miel.
La première.
Avant l'heure, c'est ça.
Avant la vraie.
Donc, il y a eu ce voyage-là, et je pense que c'est à partir peut-être de ce moment-là qu'on s'est dit qu'on était vraiment en couple, etc. Et c'est aussi quelques temps après ce voyage-là que j'ai dit à ma maman que j'avais rencontré un garçon. Mmh. À savoir que c'est la première fois, il me semble, que je lui disais que j'avais rencontré quelqu'un.
Pourquoi ? C'était la première fois ? Pourquoi tu ne l'as pas fait avant ? J'imagine que tu as eu d'autres peut-être copains avant et que tu n'as pas voulu lui en parler.
J'ai eu d'autres copains avant, mais moi, je viens d'une famille assez stricte. Mmh. Le garçon que tu présente, c'est ton futur mari.
Bon, quoi. Ouais.
Sauf que c'est un peu compliqué, comme tu l'imagines, de trouver ton futur mari sans dater de garçon. Et je sais pas, en fait, je pense qu'elle avait senti qu'il y avait un truc qui avait changé.
Allez, maman.
Et elle m'avait posé la question parce qu'elle me dit « Ah, mais tu vas beaucoup à des événements du bureau, peut-être que tu vas trouver un mari et tout. »
En même temps, trop chou, quoi, de demander
ça. C'est ça, trop mignon. Ouais. Et je lui dis « Ah oui, c'est bon, j'en ai trouvé un. »
Ah ouais, t'as dit « j'en ai trouvé
un. » Et je me rappelle,
on
était en soirée, donc forcément, j'avais bu déjà quelques bières et je me dis « Tu sais quoi, je lui envoie une photo. » Donc, je lui envoie une photo de celui qui est mon mari actuellement. Ouais. Et je lui dis « je l'ai trouvé. » Et tout de suite, elle me dit « Ah, d'accord et tout. » Mais elle me dit, il n'a pas l'air arabe. Je dis non, effectivement, il ne l'est pas.
Bien vu, maman.
C'est une très bonne observation. Et oui, donc elle me dit, il n'est pas arabe, en mode observation judicieuse.
Ouais.
Et je lui dis, effectivement, non. Parce qu'en fait, j'ai l'impression que le deal dans ma famille, enfin, ce n'est pas une impression, c'était un peu ça. Pas qu'il soit arabe, mais qu'il soit musulman. Okay. Et c'était un truc, mes parents m'ont baigné là-dedans depuis que je suis enfant. Vraiment, j'ai des souvenirs de moi enfant où mon père me disait « tu peux te marier avec qui tu veux, mais il faut qu'il soit musulman.
Ouais. »
Donc, très bien. À l'époque, je pense que j'ai accepté cette idée sans vraiment me poser la question. Parce que,
tu réfléchissais
quand
pas
t'as
trop.
Quand t'as 6-7 ans, t'es là genre « très bien, mais c'est dans longtemps, donc au pire, c'est pas si grave. » Je pense que ma maman s'était fait à l'idée au fur et à mesure des années et je pense que elle avait peut-être eu des échos de précédentes relations ou de choses comme ça, même si moi, je n'en avais jamais parlé.
Mais tu dirais que c'était un peu un sujet tabou pour toi, de parler des gars de
complètement. Complètement. Ouais. Moi, je n'ai jamais parlé d'aucun de mes copains à mes parents. Enfin. Et une fois, j'en ai parlé à mes frères et sœurs. Enfin, très récemment, juste après que j'ai présenté mon mari à ma maman,
ouais.
Entre mes frères et sœurs et moi, même si on est très proches, on ne ouais. parle pas de nos relations non plus.
Ouais.
Et en fait, c'est comme si c'était un truc qui n'existait pas dans nos vies.
Ouais. Une forme de pudeur aussi par rapport à ça.
Bah, je pense qu'il y a une forme de pudeur et il y a aussi une forme de protection vis-à-vis de ce qu'on attend de nous.
Mmh.
C'est que, tu vois, t'as ta relation, c'est ton jardin secret. Tant ouais. que t'en parles pas, bah, ça dérange personne, c'est pas grave.
Mmh.
Mais si tu commences à en parler, bah, là, ça devient un sujet ouais. potentiellement conflictuel.
Mmh.
Donc, finalement, moi, quand j'étais... collège, lycée ou plus tard, et que j'avais mes petites amourettes, et je savais très bien que bon, ils étaient très cool, mais ouais. Ça allait pas être les hommes de ma vie. Je voyais pas l'intérêt oui. de m'exposer à une relation conflictuelle avec mes parents pour ça.
Et tu peux me parler un petit peu de ta famille, tes frères et sœurs, tes parents, dans quel univers t'as grandi?
Ouais. Alors, j'ai grandi dans une famille nombreuse, puisqu'on ouais. est quatre enfants.
Ok.
C'est moi l'aînée.
Ok.
Et j'ai deux sœurs et un frère.
Ok.
Et j'ai aussi une cousine qui passe beaucoup de temps avec nous, donc c'est un peu comme une troisième sœur qui se rajoute à l'équation.
Ouais.
Mais ouais, du coup, dans une grande fratrie où on est assez proches, moi j'ai quitté la maison assez tard, donc on a vraiment tous grandi ensemble.
Mm.
Et mes parents, je ne sais pas trop quoi te dire sur eux.
Des parents aimants
Ah oui, complètement. Ouais. Oui, oui. Moi, j'ai l'impression que j'ai eu l'enfance idéale.
Trop bien.
Où, en fait, tu vis dans une grande famille, tout le monde est gentil, tes parents font tout ce qu'il faut, t'aiment, t'emmènent à des expos, t'emmènent en voyage, te font vivre plein de choses, prennent le temps. Et ça, je pense que c'est un truc qui a beaucoup compté dans mon enfance. Prennent le temps de discuter avec nous, de parler tous les soirs de notre journée. Parce que même quand t'es dans une famille où il y a moins d'enfants, c'est sûr que les parents ne prennent pas forcément le temps de parler avec toi d'égal à égal.
Mmh.
Et j'ai l'impression qu'il y avait un vrai dialogue entre, surtout ma maman, en fait, et nous. Mmh. Alors que mon père, c'était plus par les jeux, le temps qu'il passait avec nous, etc. Et ça, c'était vraiment très agréable.
Et le modèle de tes parents en couple, j'imagine, depuis un moment,
ouais.
c'était quelque chose d'important pour toi ?
Oui, d'ailleurs, c'est revenu assez récemment pour mon mariage.
Ouais.
J'avais beaucoup de pression de me dire « Ah, j'espère qu'on sera aussi beau que mes parents sur leurs photos de mariage » parce que c'était quelque chose que je regardais régulièrement depuis que je suis enfant. Et,
trop chaud.
C'est vrai que j'ai grandi dans une famille où mes parents sont ensemble depuis 20... Oh là, non, bien trop 30 ans.
Ouais.
Donc, oui, non, c'est sûr que surtout quand tu vois autour de toi, il y a de plus en plus de parents qui se séparent, même quand les enfants sont grands.
Mmh.
Et moi, ça s'est toujours très bien passé à la maison.
Trop bien.
Bon, jusqu'à ce que je rencontre mon mari, mais...
Et donc, on y revient. Oui. Tu envoies cette photo à ta mère qui te répond ça.
Oui.
Comment ça se passe ensuite? Tu lui réponds à nouveau en le disant...
Oui, après, on a une discussion tout à fait normale, ouais. En mode où je lui présente un peu les caractéristiques de mon chéri. Elle, je pense qu'elle est plutôt contente pour moi, etc.
Ok.
Parce qu'effectivement, on n'avait pas parlé de mes précédentes relations ensemble, enfin ma mère et moi. Mais j'avais eu une rupture très compliquée par le passé. Et en fait, c'était tellement compliqué à gérer pour moi que je lui en avais parlé.
Ok.
Et c'est vrai qu'à ce moment-là, elle m'avait dit « Ah, mais pourquoi est-ce que tu m'as rien dit ?»
Pourquoi est-ce que tu m'as rien dit sur les mois précédents la rupture ?
Exactement. Ouais. Et... à ce moment-là, comme je devais être en train de pleurer toutes les larmes de mon corps, j'ai pas eu l'impression d'élaborer sur cette idée. Mais en fait, ça m'est resté en tête et je pense que je me suis sentie plus libre après de lui présenter quelqu'un et lui dire « écoute, c'est cette personne qui partage ma vie en ce moment et c'est cette personne qui compte pour moi.
Ouais. »
Donc en fait, ça avait un peu ouvert le sujet, on va dire.
T'en as parlé à ta mère? Est-ce que t'en as parlé à ton père directement?
Absolument pas.
C'est différent, les darons.
Oui, c'est ça. En fait, il faut savoir aussi que mon père, quand j'ai grandi, On s'est un peu éloigné parce que j'avais un mode de vie qui lui convenait pas.
C'est-à-dire ?
Alors, c'est-à-dire que bah, typiquement, j'allais à des soirées avec mes collègues, je rentrais tard le soir, enfin, toute proportion gardée parce que je suis un peu une mamie, tu vois. Genre, je suis pas une grosse fêtarde, je vais pas en boîte de nuit, genre, bah, je vais boire un verre avec des collègues et puis je rentre, il est peut-être 23h minuit, tu vois. Donc, rien de dingo. Oui. Mais en fait, pour lui, c'est des pains comme. Un mode de vie dissolu où, je sais pas ce qui se dit dans sa tête, mais une fois, parce qu'il a beaucoup de mal à communiquer, j'ai l'impression, une fois, c'est sorti un peu de nulle part, il m'envoie un long pavé, sachant que mon père n'écrit jamais de message à part pour dire « Ok » quand tu lui dis « Est-ce que tu peux venir me chercher, s'il te plaît ?»
Je vois.
En me disant bah, je n'approuve pas ton mode de vie tant que tu vis avec nous, il faut que tu sois rentrée à telle heure. Telle heure étant, je crois, 22h, un truc comme ça. Et c'est vrai que ça m'a fait un peu un choc à ce moment-là. Et j'ai compris qu'effectivement, on avait des visions très différentes de la vie. Enfin, je sais pas, mais... En fait, ça a cassé quelque chose, je pense. Je me suis rendu compte que, bah, effectivement, je le rendais plus peut-être fier de moi comme ça avait été le cas précédemment. C'était un truc qui était hyper important pour moi tout au long de ma vie, que mes parents soient fiers de moi, que je fasse tout bien et tout. Ouais. Et je pense que c'est ça
qui a cassé été, un petit truc.
Ouais.
Ouais, et c'était pareil avec tes frères et sœurs, notamment ton frère, ou pas spécialement ?
Bah justement, en fait, c'est ça. Bah oui. C'est ça qui fait un petit peu plaisir, c'est que mon frère fait ce qu'il veut. Ouais. Et nous, les filles, par contre, c'est non. Donc ça, c'est d'autant plus compliqué à gérer pour moi, qui suis féministe, qui me dit, bah, je vois pas pourquoi. Enfin, même sans être féministe, je pense que c'est assez logique de se dire... tous avoir le même traitement, mais non, visiblement.
Et tu t'es rebellée un petit peu à ce moment-là, quand tu as reçu le texto, par exemple, c'était quoi ta réaction ?
Quand j'ai reçu le texto, bah déjà, j'étais assez abasourdie, pour être honnête. Je m'y attendais pas du tout. Et non, je suis pas du tout du genre à aller dans la confrontation avec mes parents. Je me suis juste dit, bon, bah écoute, tu vas peut-être freiner un peu, te calmer pour les prochains mois, et puis voir comment ça se passe. Mais c'est vrai que j'arrivais aussi à une période où je me disais, bon, il faut peut-être que je déménage de chez mes parents, que je fasse ma vie de mon côté, parce que bon, là, ça commence à être un peu pesant d'avoir ton père qui te dit, bah, rentre à 22h alors que t'as 25 ans, quoi.
Ouais, et puis qui te surveille un petit peu, j'imagine que t'étais pas tranquille spécialement et pas libre spécialement.
Non, absolument pas.
Ok. Donc tu lui as pas dit tout de suite à ton père ?
Non, je lui ai absolument pas dit tout de suite. Le temps a passé, j'ai fait le confinement chez mes parents. Du coup, j'ai pas vu mon copain pendant tout le confinement. Et je pense qu'après le confinement, tu sais, tu as eu toutes les périodes de couvre-feu et machin. Donc là, c'était encore plus compliqué. Et je crois qu'après un couvre-feu en novembre, on s'est dit, bon, écoute, on va peut-être s'installer ensemble. Là, c'est le moment... de se donner une chance et de vivre notre truc de notre côté. Et là, du coup, bah, j'ai dû dire à mon papa que j'allais m'installer. Parce qu'en fait, lui, il avait compris que j'allais déménager. C'était prévu que je déménage, en tout cas seule, que je parte de chez mes parents. Donc ça, il était préparé. Et effectivement, j'ai dû lui dire que non, je ne m'installais pas seule, je m'installais avec un garçon. Et là, ça a été vraiment... je ne sais pas si c'était la goutte d'eau pour lui, mais ça a été vraiment la rupture, quoi.
Ah ouais.
Encore une fois, il ne m'a pas parlé de ça face à face. Ouais. Il m'a réenvoyé un long message pour me dire qu'il était extrêmement déçu de moi, qu'il n'accepterait jamais... cette union avec ce garçon.
Parce qu'il était non musulman ou parce
Exactement.
Okay.
Parce que pour lui, il y avait deux aspects. C'était que ce garçon était non musulman. Donc finalement, cette relation ne mènerait à rien puisque je ne peux pas me marier avec lui.
Okay.
Sachant que si j'avais été un homme, j'aurais pu me marier avec lui. Okay. Mais si je suis une femme, il faut que lui se convertisse pour se marier avec moi. Donc bref. Et donc, puisque je n'allais pas me marier avec lui, c'était impensable que je m'installe avec un garçon parce que, effectivement, ça ne se fait pas de vivre en concubinage avec un homme que tu ne vas pas... Enfin, déjà, ça ne se fait pas de vivre en concubinage avec un homme qui n'est pas ton mari. Ouais. Donc là, ça a été très compliqué à gérer pour lui et du coup pour moi. Parce que j'ai vraiment du mal avec la sensation de décevoir les gens. Et là, c'était pire que tout, quoi. Enfin, où ils te disaient, j'accepterai jamais, tu fais n'importe quoi, etc. Et toi, tu sais que bah, finalement, tu ne vas pas revenir en arrière sur ta relation, sur tes choix de vie. Parce que j'y ai longtemps réfléchi. Oui. Et en fait, l'alternative, c'était quoi ? Que je reste chez mes parents, que je mette fin à cette relation et que c'est j'attende peut-être un jour de trouver une personne qui fitterait avec ses critères à lui.
Mais est-ce que c'était tes critères à toi ?
Non, pas du tout. Voilà. Ah, moi, j'en ai absolument rien à faire. Enfin, ouais. Tu vois, pour moi, j'ai une conception de la foi qui est assez personnelle, en fait. C'est tu es libre de croire ce que tu veux. Et puis, je vois pas pourquoi est-ce qu'on peut pas vivre ensemble en croyant chacun ce qu'on veut ou ce qu'on veut pas croire du tout. Tu vois.
Là, tu aurais fait ce choix pour faire plaisir à ton
exactement.
Père.
Exactement. Ouais. Et en fait, c'est ça aussi qui est difficile à comprendre pour moi, parce que je comprends vraiment sa déception. Enfin, j'ai vraiment fait un travail là-dessus de réfléchir à ce que lui pouvait ressentir, ce qu'il n'arrivait pas à exprimer. Et je comprends tout à fait que dans sa conception du monde, lui a échoué quelque part à m'élever selon ses principes. Que potentiellement j'étais vouée à l'enfer parce que je menais cette vie-là et que effectivement il s'inquiétait pour moi parce qu'il m'aimait et je pense que c'est pour ça que c'est aussi clivant pour lui et qu'il peut pas revenir en arrière quoi.
À ce moment-là, vous coupez un petit peu les ponts, tu fais le choix quand même de partir, de déménager.
Ouais.
Comment ça se passe ?
Alors, depuis que j'ai déménagé, c'est vrai qu'on parle plus beaucoup. Même quand je viens chez mes parents, ils me parlent pas forcément. Quand je dis bonjour, tu vois, ils vont répondre du bout des lèvres, etc. Et là, ça fait quand même bientôt 2 ans, 3 ans. Ouais, ça fait bientôt 3 ans et ils me reparlent toujours pas.
Ah ouais?
Ouais. Okay. Donc, c'est long et je pense que c'est très dur de faire le deuil d'une relation avec tes parents a toujours été hyper idéalisée. Enfin, moi, mon père, on était hyper proches, on jouait ensemble tout le temps. Moi, c'est quelqu'un que j'admirais beaucoup et d'être face à un mur du jour au lendemain, c'est hyper dur. Et t'as l'impression aussi que tes beaux souvenirs d'enfance sont gâchés parce que en fait tu reconnais plus la personne que t'as en face de toi. À cause de ça, j'ai traversé une période assez compliquée.
Mais oui, tu m'étonnes.
Mais au bout d'un moment, je pense que tu remets vraiment ta vie en perspective et tu te dis bon, en vrai, mon autre option, c'est quoi ?
Ouais.
C'est tout envoyer valser avec la personne que j'aime et attendre que peut-être un jour quelqu'un arrive et convienne à mon père, mais en fait c'est pas possible, enfin ça n'a aucun
sens. Oui, c'est pas ton bonheur.
Je respecte les gens qui choisissent peut-être de faire ça et sauvegarder leur relation familiale, mais moi enfin c'était pas envisageable pour moi, donc j'ai choisi de quand même déménager. Et c'est vrai que du coup avec mon père, ça s'est arrêté là, quoi. Et bon, je t'ai quand même promis une histoire.
T'inquiète.
Donc, c'est pas la fin.
Mais c'est-à-dire qu'il y a le mariage dans l'histoire.
Ouais, il y a le mariage dans l'histoire.
Est-ce que ton père est venu à ton mariage ?
Alors, je vais peut-être spoiler, mais non, il n'est pas venu.
Ok.
Mais après qu'on se soit installés ensemble, il y a plein de temps qui est passé, il y a eu plein d'épisodes, etc. Mais entre-temps, mon mari a rencontré ma maman, ça s'est super bien passé. Moi, j'ai rencontré sa famille, ils ont été adorables avec moi.
Trop bien.
Vraiment, dès la première rencontre, on s'est super bien entendu, enfin, tout s'est super bien passé.
Est-ce que ton père savait que ta mère rencontrait ton mari ?
Oui, mais il a fait le choix de ne pas venir.
Ok.
Donc, voilà. Après, mon père est plus dans l'évitement que dans la confrontation.
Ouais.
Donc, c'est pas plus mal. Enfin, je me dis, je préfère ça que provoquer une scène au resto et tout, avec ton petit regard, machin. Je pense que c'était pas facile pour ma maman non plus de se dire, bon, j'accepte quand même cette relation alors que mon mari est catégoriquement opposé. Mais elle a fait vraiment le choix et elle a eu le courage de faire cette démarche-là, d'aller vers lui et d'apprendre à le connaître. Et aujourd'hui, bon, elle l'adore, tout se passe super bien. Donc ça, c'est vraiment chouette. Et pareil, mes grands-parents, tu vois, tu peux te dire, c'est des anciens. Enfin, mes grands-parents, ils sont arrivés d'Algérie et tout. Enfin, tu peux te dire, bon, a priori, ils ne vont pas forcément être les plus ouverts d'esprit, mais ils ont aussi... accueilli mon mari à bras ouverts, il l'aime trop, ma grand-mère lui fait des couscous et elle me dit viens chercher le couscous n'est même plus pour moi, il est pour lui. Donc, non en fait, ce que je voulais te dire aujourd'hui c'est que en fait, j'ai voulu réparer la relation avec mon papa pendant hyper longtemps et je conditionnais un peu le happy end à ça. Et en fait, c'est pas forcément ça qui va se passer. Et c'est pas ça qui s'est passé, parce que le mariage a eu lieu, c'était génial. Ça s'est passé mieux que ce qu'on avait espéré. Tout le monde était là, du coup, sauf mon père. Mais personne n'a pensé à lui ce jour-là. Enfin, personne s'est dit pourquoi il est pas là. Ou peut-être que les gens se le sont dit, mais moi, personnellement, non. Parce que j'étais préparée au fait qu'il ne vienne pas. Oui. Et en fait, au bout d'un moment, tu te dis, tu vas pas mettre ta vie en pause, ton bonheur en pause, en attendant que quelqu'un te tolère, en fait.
Ouais.
Et je pense que c'est ce que j'ai réussi à faire aujourd'hui. Et voilà, quoi.
C'était un souhait, toi, de te marier ? C'était important pour toi ?
Ouais, moi, c'était hyper important pour moi. Quand j'étais petite, c'est vrai que... tu sais, tu regardes les photos de tes parents. Enfin, moi, j'ai toujours été... bien entourée de couples hyper inspirants, qui s'aiment, qui élèvent leurs enfants d'une manière hyper bienveillante et tout. Et moi, ça m'a toujours donné envie. Après, en vrai, je pensais pas du tout que j'allais me marier aussi jeune, entre guillemets. Ouais. Bon, j'ai 28 ans, c'est pas du tout jeune, mais... Quand j'étais plus jeune, j'avais des pensées assez inquiètes par rapport à ça. Parce que effectivement, j'étais dans un milieu où, dans ma ville et dans mon entourage, tout le monde est blanc, tout le monde est catholique. Il n'y avait pas grand monde qui me ressemblait. En plus, moi, j'ai un handicap moteur et je m'étais dit, qui va vouloir se marier avec moi ? Genre, c'est trop bizarre, tu vois. Et c'était quelque chose. Enfin, je réfléchissais souvent à ça quand j'étais petite. Je me disais, mais qui va se marier avec toi ? C'est bizarre et tout. Ouais. Est-ce que vraiment il y a des gens qui se voient avec moi, quoi ?
Okay.
Et en fait, oui, il y a plein de gens qui se sont vus avec moi tout au long de ma vie. Donc, c'était pas si dur que ça, entre guillemets. Mais je pense que j'ai toujours eu envie de me marier. J'étais super contente de le faire. Et puis, mon mari aussi, il avait envie de se marier et d'avoir quelqu'un qui pouvait être dans cet engagement-là avec lui. Je pense que ça comptait à ses yeux. Quoi.
C'était comment ton mariage alors ?
C'était trop bien. mon mariage, c'était... tu veux que je te raconte genre où c'était et tout ?
Ouais, vas-y. J'ai trop envie d'aller à un mariage en ce moment.
Mais moi aussi, du coup, j'essaie d'engrainer toutes mes copines pour qu'elles se marient. Ouais. Mais bon.
Je fais des fêtes de bac, c'est cool, tu vois. Mais genre un putain de mariage, je m'en mets.
Ouais. Bah là, c'était dans une espèce d'ancienne grande ferme à côté de Rambouillet.
J'étais sûre.
Voilà.
J'adore. Je le vois. Je vois ta robe.
Je te montrerai des photos si tu veux. C'est mon fond d'écran, je crois. Regarde.
Ah bah bien sûr, c'est ton fond d'écran. Oh waouh, elle est belle la photo.
Ouais.
Oh, ça se voit que t'es trop contente.
Bah j'étais trop contente.
Ah, elle est trop belle la photo.
Du coup, qu'est-ce que j'allais dire ?
Ça s'est passé comme tu voulais ?
Trop, comme je voulais. Tout le monde était là, tout le monde était hyper beau. Enfin, moi, j'étais trop contente de voir tout le monde et de voir que tout le monde était heureux pour nous. Ça faisait vachement de bien. Mmh. Parce que les gens ne te disent pas forcément qu'ils t'aiment et qu'ils sont contents pour toi au quotidien, en fait. Mmh. Et le jour de notre mariage, on a fait une cérémonie laïque qui était du coup animée par un de mes meilleurs amis. Et il y a plein de gens qui sont proches de nous, qui ont pris la parole pour raconter un peu comment on s'est rencontrés, eux et nous, et comment est-ce qu'ils voyaient notre histoire au fil des ans. C'était hyper émouvant, c'était... Enfin, vraiment, on a pleuré tous comme des madeleines. Mais en fait, ça fait trop du bien de remplir ton réservoir de « Ah, il y a des gens heureux pour nous
ouais. ».
Après toutes ces années où tu essaies de te battre pour maintenir ta relation contre vents et marées, tu as l'impression que personne ne valide cette union. Et là, tu as une journée où tout le monde est là, tout le monde sait qu'il est là pour célébrer ton mariage. Donc c'est vrai que ça faisait du bien.
Ta mère, elle était émue ?
Ah oui. Ma mère est une personne extrêmement expressive.
Okay.
Du coup, oui, elle a beaucoup pleuré. L'élu, en plus, qui nous a mariés, c'est sa meilleure amie. Franchement, c'était un super beau mariage. Mon père n'était pas là, mais mon grand-père m'a conduite à l'hôtel quand même. Enfin, c'était vraiment bien. Et je pense que tous les gens qui avaient envie d'être là et de célébrer ce mariage étaient là. Donc, non, franchement.
Trop bien.
Trop, trop bien.
Est-ce que tu penses que par rapport à ton père, il va y avoir un changement à un moment ou ça va durer comme ça, votre relation là en ce moment ?
Bah, je me suis longuement posé la question. J'ai vu plusieurs psys à ce sujet d'ailleurs, parce que c'était quelque chose qui m'occupait beaucoup l'esprit. Je pleurais très souvent. Mmh. J'avais l'impression de me sentir abandonnée. Mmh. Et même quand je consultais des psys pour tout autre chose, on revenait toujours à ce sujet. Ce qui te disent, bon, alors, avec vos parents, et je suis genre, avec mon père, ça va pas trop.
Ouais.
Jusqu'au point où je me suis dit, en fait, j'en ai marre de parler de mon père. Enfin, à chaque fois que... Enfin, tu vois, quand tu vas chez le psy, c'est hyper égoïste.
On parle de moi, en fait.
Mais en fait, on parle de moi, c'est moi qui paye, madame. Tu vois. Et puis, les psys, elles sont là, genre, est-ce que vous avez essayé de lui parler?
Avec
genre,
cette voix?
Mais oui. Mais en fait, j'ai tout essayé de lui parler, de lui écrire des lettres.
Mais tu l'as pas emmené chez le psy avec toi ?
Franchement, mais mon rêve.
La thérapie familiale.
Mais j'adorerais qu'on puisse forcer les hommes à consulter un psychothérapeute. Malheureusement, c'est pas. Enfin, je pense que lui se pose vraiment pas la question. Pour lui, c'est moi le problème, et puis c'est à moi de changer. Donc, au bout d'un moment, en vrai, je me suis dit parfois qu'il allait venir au mariage.
Ouais.
Je me suis dit, bon, ce serait le bon moment pour faire un pas vers nous. Ça me paraît plutôt adapté. Mais en fait, non, quoi. Donc, est-ce qu'il va revenir un jour ? Peut-être. Mais c'est pas un truc que j'attends, quoi. Et j'ai pas envie d'être...
C'est plus un truc que tu attends
maintenant. Ouais, c'est ça. Je l'ai beaucoup attendu. Et je pense que le mariage, c'était aussi un soulagement pour moi, même si ça n'a rien à voir, mais... De me dire, bon, maintenant, je sais à quoi m'en tenir. Il n'est pas venu ce jour-là. Ça veut dire que pour moi, en tout cas, il ne reviendra plus. Okay. Et que s'il avait voulu venir, la porte lui était ouverte. On lui a même redit la veille qu'il était le bienvenu. Et il a fait ce choix-là. Donc, j'ai envie de te dire, je ne vois pas tellement ce qui pourrait le pousser à revenir après ça. Et même vis-à-vis de... vis-à-vis de mon mari, je trouverais ça assez irrespectueux de se repointer un jour comme une fleur. Ouais, moi, genre, oh fait... bah salut ouais. on s'est jamais dit bonjour, on s'est jamais serré la main. Enfin, c'est quand même délirant, tu vois. Donc, ouais.
Comment il l'a vécu, ton mari ?
Au début, difficilement, je pense. Surtout que du côté de sa famille, il y avait énormément de questions. Typiquement, il savait que... il avait rencontré ma maman, que ça s'était très bien passé. Et c'est vrai qu'il y avait beaucoup de questions sur mon père. Bon, bah, pourquoi est-ce qu'il... Et à juste titre, je pense qu'il y avait un peu de colère du côté de sa famille parce qu'ils ne comprenaient pas pourquoi leur fils n'était pas assez bien. Alors que c'est une personne géniale, tu vois.
Ouais. Et c'est pas le sujet, quoi.
Oui, c'est ça. Ouais. Et je pense que ça a été compliqué à accepter pour eux. Là où ils ont été vraiment cool, c'est qu'ils me l'ont jamais fait ressentir à moi.
Trop bien.
Et ils m'ont jamais posé la question, à part pour prendre de mes nouvelles, en mode bon, alors avec ton père, comment ça se passe ? Je pense que pour mon mari, ce qui était compliqué, c'était effectivement répondre à toutes ces questions. Parce que sa famille comprenait pas forcément la position de mon père, était pas forcément familier avec toutes ces règles. Après, avec le temps, je pense qu'il a compris que c'était pas à propos de lui, en fait. C'est qu'il aurait pu être n'importe qui.
Oui, bien sûr.
C'est qu'en fait, son critère, quelle que soit la personne derrière, si ça matche pas, bah, ça passera pas, quoi. Et je pense que... Je sais pas ce qu'il ressent aujourd'hui. Parce que souvent, quand je lui en parle, il me dit « Ah non, mais c'est pas moi, c'est plus pour toi que c'est compliqué parce que c'est ton père ». Mais je pense qu'il y a ce regret de jamais avoir eu sa chance, peut-être. Après, je ne sais pas comment ça a évolué au fil du temps et comment ça va évoluer.
Écoute, ce sera l'occasion, s'il écoute ce podcast,
exactement, de lui poser la question. Mais je pense que c'est quelque chose qui va changer dans le temps, quoi.
C'est quoi votre avenir à tous les deux ? Comment vous imaginez l'avenir avec ton mari ?
Déjà, on va partir en voyage de noces, c'est ça notre prochain projet.
Yes. Vous allez où ? Tu sais encore ?
On va au Japon l'année prochaine.
Trop bien.
Si tout va bien.
Trop bien.
On a pris nos billets avant-hier soir, je crois.
Ah, trop
bien.
Donc
là, ça commence un tout petit peu à se concrétiser. Donc c'est ça nos projets. On aimerait bien peut-être un jour partir en Bretagne pour s'installer là-bas, parce que sa famille est originaire de là-bas. Okay. Cet été, on a fait le tour de Bretagne après le mariage. C'était trop bien. Donc ça fait partie de nos projets. Après, je sais pas si ça va se concrétiser ou si c'est juste un truc en mode un jour je partirai en Bretagne, j'aurai des chèvres et un potager.
Oui, sans être dans l'extrême. Voilà. T'auras peut-être un appart à Rennes, ce sera
peut-être.
Super.
Donc c'est ça nos projets pour le moment. Et puis contrairement à toutes les inquiétudes, j'ai l'impression qu'on cohabite plutôt bien.
Ouais, ça se passe bien.
Non, tout se passe bien. Et puis comme on vivait ensemble déjà avant le mariage, ça n'a pas bouleversé nos vies. Et je pense que c'était un truc qui nous tenait à cœur, c'est qu'on sait, avec qui on se marie. Ouais. On connaît l'autre personne, on sait... ce qu'elle fait le matin, on connaît ses vieilles habitudes qu'on n'aime pas trop, mais qu'on choisit d'accepter. Et ça, je pense que c'est assez important quand tu veux construire un couple solide.
Avant lui, tu m'as dit que tu avais vécu une rupture difficile. Tu as eu des belles histoires avant lui quand même, ou tu as eu des trucs un peu galères ? Des trucs un peu galères, j'appelle ça comme ça.
C'est tu une catégorie comprends. Où tu mets plein de mecs comme ça dans un grand sac.
Du sorte de truc là. Un peu galère.
C'est marrant parce que j'y ai réfléchi il n'y a pas si longtemps. Et en fait, j'ai l'impression que c'était toujours un peu des plans galères. Genre, c'était pas... j'ai jamais été dans des relations horribles. Mais en fait, avec le recul, je me suis dit que j'avais tellement peur de peut-être me retrouver toute seule au fond de moi. Que je me suis mis dans des relations où effectivement c'était bien, mais c'était pas fou, quoi. Genre des mecs avec des modes de vie complètement différents du mien, ou je sais pas, des habitudes qui m'énervaient trop. typiquement, le mec pour qui j'ai pleuré pendant des mois, c'était un adepte de soirées techno.
Ok. Alors,
autant te dire,
c'est du tout ton truc.
Le plus éloigné de moi que tu puisses trouver sur Terre. Et en fait, il y a des jours où je me dis, mais attends, Mais qu'est-ce que t'as foutu, genre, pendant des mois avec un type, enfin, vous avez rien en commun. Et je me suis demandé, est-ce que c'est un truc qu'on se dit une fois qu'on n'est plus avec quelqu'un pour se dire genre, non mais de toute façon, on n'avait rien à voir, lui et moi, donc c'est pas si mal et tout. Mais en vrai, je pense qu'il y a de ça. C'est qu'il y a plein de relations dans lesquelles j'étais et en fait, la personne me ressemblait pas du tout, quoi. Et on n'était pas forcément fait pour être ensemble, mais je me disais... peut-être que ça me rassurait de voir que je pouvais être aimée, que des garçons s'intéressaient quand même à moi et tout.
Même s'ils étaient hyper différents et pas spécialement...
C'est ça.
Pas à ton goût, mais...
Non, mais le pire,
adeptes
c'est que...
des mêmes goûts.
Le pire,
c'est qu'ils étaient tous chums.
Non. Non, il y en a horrible. Un. La dernière fois, je me suis dit, en fait, il était pas... Je le trouvais pas très beau. Ouais. Mais en fait, j'étais en prépa, c'était un mec beaucoup plus âgé que moi, donc ça le questionne plutôt lui que moi, je pense. Parce qu'il me semble que j'avais 18 ans et qu'il en avait 26. Okay. Enfin, tu vois. Et puis, enfin, moi, j'étais pas du tout à une période de ma vie où tu peux te dire « Ah, oh, ça va, là, je n'ai qu'un chiffre, je suis hyper mature pour... » Je n'étais pas mature pour mon âge. Je pense que je me prenais vraiment pour quelqu'un que je n'étais pas. Ouais. Et en fait, c'est plein d'histoires comme ça où ça paraît hyper random... Des mecs que tu matches sur Tinder, finalement, tu sors pendant 1-2 ans avec eux et un jour, ça s'arrête parce que tu leur dis « Bah écoute, je crois que je ne t'aime plus », mais avec le recul, 3, 4, 5 ans plus tard, je me dis « Mais est-ce qu'on s'est vraiment aimé à ce moment-là ?» Et je pense que j'avais surtout besoin que quelqu'un m'aime. Et c'était pour ça qu'on était ensemble. Donc, pas plan galère de ouf, mais...
Ouais, pas ouf, quoi.
Pas ouf non plus.
Parce que tu vis maintenant.
Non.
Qu'est-ce que tu dirais à une femme qui traverse un conflit comme ça avec sa famille par rapport à toi, ton expérience, ce que tu as vécu ? Quel conseil tu pourrais donner avec le petit recul de ces quelques années que tu as vécu depuis ?
Moi, mon conseil, c'est d'essayer de communiquer et de maintenir le dialogue quoi qu'il arrive. Parfois, on trouve une personne avec qui c'est plus facile de dialoguer. Moi, je sais que j'ai eu plus de facilité à aller vers ma maman parce que parfois, elle pouvait aussi discuter avec mon père en aval et essayer de lui expliquer mon point de vue.
Je trouve qu'il y a quand même souvent ce truc quand les parents sont ensemble où la daronne va faire le taf. Tu vois ? Non, mais franchement, ouais. C'est fou quand même, je trouve.
Ben,
elle va
c'est
rapporter
ça.
Les paroles de l'un, de l'autre. Et il n'y a pas de... Parfois, il n'y a pas de dialogue direct avec, avec le daron, quoi.
Non, parce que souvent, j'ai l'impression que... Enfin, en tout cas, dans mon histoire et des histoires que j'ai pu entendre comme ça dans des podcasts ou dans des vidéos, j'ai l'impression que ce type de daron, ils sont très fuyants. C'est qu'ils sont campés sur la position, mais pour autant, ils ne vont pas en débattre avec toi.
Oui, c'est comme
et
ça, quoi.
Oui, c'est comme ça. Et en fait, de toute façon... essayer d'en discuter avec eux, c'est déjà challenger leur autorité. Ouais. Donc en fait, ils vont pas forcément accepter de discuter avec toi parce que qui es-tu pour discuter avec eux de ouais. leurs convictions. Donc oui, trouver peut-être une tierce partie qui puisse interagir avec avec la personne qui a rompu le dialogue, ça je pense que c'est très important. Sachant que moi, j'ai pas rompu le dialogue avec mon père unilatéralement. C'est que, bah, effectivement, il ne me parle pas, mais moi, j'essaye quand même, même s'il ne me répond pas vraiment, d'essayer de lui dire des choses. Quand je viens, je lui dis bonjour, même s'il ne me répond pas forcément. Quand il a arrêté de me parler, je lui ai quand même écrit une lettre. Suite à cette psy qui m'a dit « Mais est-ce que vous avez essayé de lui parler ?» Et j'étais genre « Oui, j'ai essayé, mais il ne m'écoute pas.
Ouais. » Oui, peut-être donc, que l'écrit, vu qu'il t'envoie des messages et tout, ça peut être quelque chose de plus simple.
Et puis je me dis, en fait, parfois on n'est pas toujours prêt à recevoir une discussion. Et au moins par l'écrit, c'est quelque chose sur lequel il peut revenir a posteriori, peut-être réfléchir quand lui sera prêt. Donc je pense que c'est important de pas se couper et d'essayer quand même de se faire entendre, même si ça passe par des moyens détournés. Enfin, je sais qu'une lettre ça peut paraître un peu nul, mais on sait jamais, ça peut peut-être aider. Donc ouais, essayer de dialoguer, je pense que c'est le plus important.
Je trouve que ça paraît pas nul du tout, ça peut être hyper important.
Ouais, mais tu sais, ça fait très romanesque.
Oh, moi, j'aime bien. Je viens d'écrire une lettre à une de mes meilleures potes là, pour son anniv que je vois ce
ouais,
soir.
Ouais, non, mais ça, c'est bien. Mais en fait, quand tu écris une lettre à quelqu'un qui te ghost, t'as un peu l'impression que c'est truc désespéré, tu vois.
Genre, oui, ok, je
vois. Bonjour, je sais que tu ne veux pas me parler, mais voilà ce que j'ai à te dire.
C'est beau comme geste, quand même.
Bah, en tout cas, ça demande... Enfin, je pense que ça demande pas mal de force intérieure de se dire « bon, allez, je sais qu'il ne va pas me répondre, je sais que ça ne va peut-être rien changer, mais c'est important qu'il sache.
Oui. » Ouais, ouais, carrément.
Et donc, oui, je pense que les deux conseils, c'est trouver peut-être une personne, ou plusieurs d'ailleurs, qui peuvent quand même interagir avec cette personne-là et maintenir le dialogue du mieux qu'on peut, quoi. Parce que de toute façon, je pense que c'est la seule manière dont on sort... d'une situation compliquée, c'est par le dialogue et qu'on essaie de se faire comprendre au mieux, et lui et nous, quoi. Mmh. Je voulais te parler aujourd'hui pour que les personnes qui sont dans la situation dans laquelle j'ai été ne perdent pas espoir, et même si le dialogue est rompu, elles peuvent vivre heureuses quand même. Ouais. Et il y aura plein de gens dans leur entourage qui prendront le relais et qui leur donneront de l'amour quand même, et effectivement, elles pourront être heureuses, quoi.
Trop bien. Merci beaucoup, Sephora. C'était très bien.
J'espère. J'étais super stressée.
C'est vrai ? Ça ne s'est pas senti.
Ok, cool.
Pourtant, j'essaye d'être sympa.
Non, mais tu es sympa.
Non, mais c'est aussi beaucoup d'émotions pour toi de parler de ça aussi,
ouais,
j'imagine.
Mais c'était un sacré défi de me dire, bon, allez, j'y vais et j'y parle de ça. Et d'ailleurs, je crois que c'est la première fois que j'arrive à raconter toute l'histoire sans pleurer, sans rien.
Trop bien.
Donc, je suis assez...
Enfin, trop bien. Tu peux pleurer, pas pleurer. Tu fais ce que tu veux, bien sûr. Mais c'est bien d'en parler, c'est important.
Oui.
Et puis, il y a certainement des femmes à qui ça fera du bien aussi de savoir ça.
Bah, c'est ce que j'espère. Ouais. Et c'est pour ça aussi que je voulais venir aujourd'hui. Ouais.
Trop bien. J'adore quand c'est comme ça. C'est très souvent comme ça.
Trop
et
bien.
Ça marche. Merci beaucoup d'avoir écouté ce podcast et merci à Sephora pour son témoignage. S'il vous a plu, vous pouvez laisser des petites étoiles et des commentaires sur Apple Podcasts ou Spotify. Si vous souhaitez participer, toutes les informations sont en description et on se retrouve dans 2 semaines pour un nouvel épisode.